Le Move.
Faire écouter une lecture, disons, voilà. Une jeune femme, elle s'appelle Elsa Denac, elle a lu ce livre, Trésor d'amour, et elle va vous en proposer une lecture en 3 minutes et 40 secondes.
Trésor d'amour.
Qu'est-ce que l'amour? Il y aurait bien des réponses.
Qu'est-ce que l'amour? Le besoin de sortir de soi. L'amour est enfant de bohème, on ne badine pas avec l'amour, etc., etc., etc. La liste pourrait être plus longue que la liste de courses d'un naufragé sur une île déserte. Aussi, je ne vais pas essayer de répondre à la question. À la place, je m'installe dans ma gondole pour lire le Trésor d'amour.
La littérature, en réalité, en tant que telle, n'intéresse pas tellement les gens, mais que quand on s'intéresse à la littérature, on est d'une part seul et d'autre part obligé de courir sans cesse pour échapper justement à cette fixation.
Et moi, je cours sans perdre haleine à la suite de Mina, Mathilde, Philippe, Julien. Je cours et j'atterris à Venise. Et là, sur une place...
La folie et l'amour jouaient un jour ensemble.
La folie et l'amour dansent ensemble et les personnages sont là, dansant au rythme de la fugue. La folie fait un pas de côté et entre en scène sieur Stendhal, venu d'un autre temps, celui d'un siècle passé où les décors étaient en noir et blanc. L'amour fait un pas chassé. Mina tombe dans les bras de Philippe Julien et la ronde continue. Et je suis là, spectatrice d'une rencontre entre deux temps, rythme inconnu et mystérieux des amants de la page.
Tout est mystère dans l'amour.
Car le mot amour couvre un mélange très complexe. Il y a de tout dans l'amour, du corps, du cœur et de l'âme.
Il y a de tout dans l'amour, si bien que tout est chamboulé. La folie peut apparaître avec un corps de femme, le temps n'a plus d'aiguille et les perceptions donnent aux couleurs un goût d'ailleurs. Je me retrouve sur une route, un boulevard où les carrefours sont les changements de paragraphes. Je me suis remise à courir. On est obligé de courir. Mais il me faudrait un feu rouge quelque part, que je reprenne mon souffle. Un panneau de signalisation apparaît à mes pieds. Il indique « Danger pour la lecture, danger, danger ».
Il faut lire Stendhal.
Il faut chanter Chateaubriand. Il faut entendre Céline quelque part entre une nuit et une lune. Et en courant, je croise leurs mots.
Je tenais plus en l'air d'anémie. De l'air, j'en ai pris beaucoup et de tellement fort en abondance que j'en étais sous.
Il est temps que je mette à profit les avertissements du ciel.
Je voyais plus que des bites, des culs, des bateaux, des voiles.
Alors je m'arrête devant le panneau.
Attention, lecture en danger.
Trésor d'amour est toujours dans mes mains. Je le referme. Je regarde sa couverture. Erreur. Trésor d'amour a été remplacé par De l'amour. Et Philippe Solers par Stendhal. Je n'y comprends plus rien. Et la folie repasse devant moi. Et dans son voile, l'amour le suit. Et moi aussi, je veux les suivre. Alors je cours, alors je danse, alors je tombe, alors j'en crève.
Mourir d'apoplexie littéraire.
Assommé par un trésor d'amour. Je suis maintenant dans cet entre-deux-mondes où le passé se mêle au futur et où les pages se tournent en provoquant des tourbillons.
Tu veux dire que t'es enfermée dans un livre, là, Elsa, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je saute sur les notes de bas de page pour atterrir en pleine majuscule. Et je continue de courir. Toujours avec endurance et facilité.
Philippe Solers, merci.
On a trouvé une lectrice.
Oui, c'est très bien, parce qu'elle a abordé tout de suite la question de la folie et de l'amour. L'amour est mystérieux, oui. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science, comme dit La Fontaine, oui. La folie, alors, puisque je parlais d'André Breton, il faut lui rendre cet hommage, c'est quand même un livre magnifique de lui qui s'appelle L'amour fou. Et donc, à un moment qui était particulièrement très resserré dans l'histoire, hein, parce que c'était vrai, c'est la guerre, l'amour fou. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque, hein, de même que les livres précédents de Breton. La liberté, l'amour, la poésie. Voilà, c'est là que ça se joue et que, en effet, ça rend libre... ou plus libre qu'on ne l'était, ou invraisemblablement conscient de ses limites, ce qui veut dire la liberté. Ensuite, l'amour, bon, et la poésie, c'est ça le problème, c'est l'accélération des sensations. Vous entrez dans votre vie qui ne demande qu'à vous, si vous répondez, vous répondez pas. Mais ça, qui ne demande qu'à vous de vous mettre en état de gratuité et d'invention poétique. Donc la vie est un roman qu'on peut réussir. Le plus grand roman de Stendhal, c'est lui. Il a su créer des personnages féminins absolument admirables, inoubliables. Hein, c'est le Rouge et le Noir, la Chartreuse de Parme, etc. Et il est rentré dans cette configuration de la substance féminine, comme, à mon avis, personne. Ce qui fait de ces personnages, Madame de Rênal, Mathilde de la Mole, la Sorcévérina, c'est un écrivain cryptique. C'est tout ça est crypté. C'est-à-dire que l'amour est un langage muet. Par exemple, Fabrice, dans sa tour, avec sa tante, Gina, qu'il adore. Hein, Gina t'aime. Hein, Gina t'aime. Alors, bon, et alors, il faut adopter un code, 3 petites lumières, 4 petites lumières, etc. Je crois que tous les amoureux de tous les temps ont choisi une sorte de langage chiffré pour se comprendre et continuer l'aventure. Il y aura, s'il n'y a pas un mouchoir à la fenêtre, etc. Bon, ça c'est... Dans notre époque, et l'époque de la surveillance constante, de SMS, des textos, etc., du bavardage, le silence devient quelque chose de très important, c'est-à-dire avec un signal très, très
le spécifique. Silence, le silence peut être le code.
Un
même.
Code, ouais, bien sûr.
C'est bien, c'est en parlant de code, Stendhal, à la fin, vous écrivez ça, Philippe Solers, SFCDT.
Ça, c'est sa devise à la fin. Il est enterré à Civitavecchia comme consul. Il va se faire enterrer en Italie, ce qui va choquer évidemment tout le corps diplomatique, parce qu'il est quand même un employé un peu misérable. Et c'est dans une de ses lettres, alors très émouvante, où il dit, voilà, ma devise maintenant, c'est SFCDT. Ça n'a rien à voir avec la CFDT.
Non.
SFCDT, c'est-à-dire se foutre carrément de tout.
Se foutre carrément de tout. Et en même temps, sur sa tombe, et ça c'est très beau dans le livre Philippe Solers, il demande qu'on grave quelque chose, et en plus qu'on grave quelque chose en italien. Alors quelle est sa demande? Qu'est-ce qu'il veut qu'il y ait d'inscrit sur sa tombe?
Il veut qu'on écrive d'abord que cette âme, questa anima, voilà, que ce soit en italien, milanese. Arrigo Bell, milanaise. Bon, alors, comment ça? Un consul français déclare qu'il est milanais. Il est milanaise parce qu'il a connu l'amour à Milan et avec l'Italie. Bon. Ensuite, trois mots très, très, très pesés. Voilà. Visse, scrisse, amo. Il a vécu, il a écrit, il a aimé. Son cousin, Romain Colomb, qui avait beaucoup pour lui, il voulait que ça soit gravé sur sa tombe. Vous allez au cimetière Montmartre aujourd'hui même, ou demain, ou après-demain, et vous verrez la tombe de Stendhal avec une erreur du cousin. Parce qu'au lieu de dire « il a vécu, il a écrit, il a aimé », ce qui veut dire que pour aimer, il faut savoir être dans l'écriture de la vie, ou de la vie de l'écriture, bon. Et que là se passent des choses qui ne se passent nulle part ailleurs, parce que c'est une opération magique, en fait, qui provoque des rencontres, des courts-circuits qu'on ne soupçonne pas. Hein, c'est un autre genre de vie, autrement dit. Et il a écrit, lui, il a fait graver, il a vécu, il a aimé, et il a écrit. Ce qui veut dire, qu'on écrit une fois qu'on a vécu, et bien alors on écrit ses mémoires, on écrit ce qu'on a vécu.
Et alors vous
on écrit ce qu'on a vécu, ce qui est le contraire même de la vision de Stendhal.
Et alors vous écrivez, il faut insister, c'est parce qu'il vit et qu'il écrit qu'il aime, et non pas parce qu'il vit et qu'il aime qu'il écrit. Voilà. Et effectivement, vous insistez, c'est parce qu'il vit et qu'il écrit qu'il aime. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous renversez complètement la proposition habituelle.
C'est-à-dire que je pense que c'est la même chose que douleur d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure plus que la vie. Plus que la vie, ça veut dire que, écoutez, c'est clair, il y a tous les livres de Stendhal, vous les ouvrez, ce sont des merveilles, vous pouvez rêver intensément avec. Donc il a gagné sur le plan de la vie qui est plus que la vie biologique, parce que voilà, vous mourrez, mais les livres sont la preuve que vous êtes vivant.
Et vous le dites à un autre moment, vous dites lire Stendhal, ça rajeunit. Je crois que c'est le mot que vous employez.
Absolument.
Ça fait voilà un effet de rajeunissement. Quel est ce miracle, hein?
Parce que ça fait appel à un tel art, d'abord de la narration, des sensations. Vous avez l'impression d'être avec un corps vivant qui n'a qu'il a plus d'âge. Voilà, et donc, oui, ça vous rajeunit parce que vous retrouvez aussi tout ce que vous pouvez garder comme sensation enfantine. Hein, le vert paradis, les amours enfantines. C'est-à-dire, les adultes sont des enfants ratés. Ils oublient leur enfance, ils sont traîtres à leur enfance. Ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé de gratuit, de totalement gratuit dans l'enfance. Ils se mettent au travail, et ils souffrent, et ils sont, et ils se vengent sur leur progéniture. L'adulte pédophile est quelqu'un qui se venge sur l'enfance. C'est terrible, c'est un crime contre nature sur un plan fondamental, c'est-à-dire que c'est une vengeance sur ce qui éclot. C'est comme si il y avait des maniaques qui coupaient les fleurs. Voilà. Vous comprenez ? C'est ça qui est en train d'être négligé par les humains de notre temps.
Est-ce que c'est un nouveau... Vous n'avez pas aimé le mot, parce que vous m'en avez déjà parlé tout à l'heure. À force de rejeter le romantisme dans ce qu'il a de morbide, en fait, profondément, est-ce que vous n'essayez pas d'en inventer un autre, mais avec une sorte de lucidité rageuse qui même peut être étonnante, enfin, pour le lecteur. Vous écrivez au début du livre « Une femme vraiment aimée est brusquement la même qu'une autre, très différente et qu'on n'oubliera jamais, mais cette matinée aussi est la même qu'il y a 20 ou 30 ans, ce rayon de soleil est le même, ce passage de bateau le même, ces mouettes les mêmes, l'autre, contrairement à la vieille rengaine romantique, est le même quand même. »
Oui. Eh bien oui, parce que vous voyez bien que c'est l'éternel retour de Nietzsche, hein. C'est-à-dire que cet instant-là va se répéter. Si vous vivez, ne fût-ce qu'une fois, quelque chose d'une intensité incomparable, quoi, enfin que vous n'avez jamais connu dans votre vie, ou vous attendrez peut-être longtemps que ça se reproduise, ça peut se reproduire, bien sûr, si vous avez de la chance, si vous êtes guidé par la chance, et si vous êtes à l'intérieur de votre langage aussi, enfin, la formulation, pour trouver le lieu et la formule. C'est l'éternel retour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le temps classique. Enfin, les gens sont... Au fond, ils vont vers quoi ? Ce sont des chronophages. Ils vont vers leur pierre tombale, quoi. En étant... voilà pourquoi l'épitaphe de Stendhal est très importante. Vous pouvez mettre la date de naissance et la date de votre mort. Ça suppose que... Ou après que vous fassiez incinérer, jeter, enfin, la façon romantique, dans je ne sais quel fleuve, le Gange, par exemple, pourquoi pas, ou dans la Seine, comme Debord l'a fait faire. Vous voyez, là, le temps... Si vous êtes très attentif au temps, alors le temps n'a rien à voir ni avec votre naissance, ni avec votre mort. C'est un temps éternellement jeune. Oh là là, vous savez, Pierre va mettre une pincée de latin et de catholicisme.
Bon, allez-y, vous pouvez essayer.
Introibo ad altare Dei.
Ah mais je veux la traduction, parce que alors là...
Introibo ad altare Dei. Ad deum qui letificat iuvet tutem meam. Il se trouve que c'est la première phrase d'un chef-d'œuvre, qui est l'Ulysse de Joyce, sur la tour, là, l'admirable, heureux malgré ses malheurs. Il n'y a pas plus grandiose que la joie qui éclate dans tout Joyce. Voilà, j'irai vers le. C'est le prêtre, en principe, qui dit ça. Introibo ad altare Dei, j'irai vers l'autel de Dieu. De Dieu qui l'étificat, juventutem meam, de ce Dieu qui réjouit ma jeunesse. Ce Dieu est celui de la jeunesse. Alors, les chrétiens ont appelé ça comme ça, les catholiques. Ils en ont fait beaucoup de sculptures, de peintures, de ceci, de cela. C'est assez réjouissant. D'ailleurs, Stendhal a écrit un livre magnifique pour son époque, en tant que petit Français qui découvre à quel point la France est en retard.
Ses promenades en Italie.
Ses promenades, et c'est la peinture en Italie. Il a admiré brusquement, il est tombé, voilà. Au lycée, on me faisait réciter du Bellay. Alors, du Bellay, c'était... Ça me faisait rire. France, mère des arbres, des armes, des arts. France, mère des arts, des armes et des lois. Mais c'est ahurissant. Deux siècles de retard. Donc, il y a peu de Français, vous savez, que les touristes passent, ils tournent et puis ils s'en vont et ils oublient. Mais il y a peu de Français qui sont entrés dans la fibre italienne. Alors, une histoire d'amour avec une Italienne, je la recommande à tout jeune Français qui voudrait se civiliser un peu.
Voilà, ça sera la recommandation de Philippe Solers. Je vais vous faire écouter un autre écrivain, Philippe Solers, et il est l'un de vos invités dans ce livre. Stendhal est l'invité principal, essentiel. Il y a Sartre aussi, il y a Freud, on pourrait en parler. Et puis il y a Guy Debord, justement. Alors, de Guy Debord viennent de paraître aux éditions Gallimard les enregistrements magnétiques, c'est-à-dire la voix de Guy Debord en train de lire ses propres textes. Et à propos de la société, justement, et peut-être convient-il de s'en défier de la société, un extrait donc de ces enregistrements magnétiques de Guy Debord de 1961. Écoutez.
La vie quotidienne, mystifiée par tous les moyens et contrôlée policièrement, est une sorte de réserve pour les bons sauvages qui font marcher, sans la comprendre, la société moderne. Avec le rapide accroissement de ses pouvoirs techniques et l'expansion forcée de son marché. L'histoire, c'est-à-dire la transformation du réel, n'est pas actuellement utilisable dans la vie quotidienne parce que l'homme de la vie quotidienne est le produit d'une histoire sur laquelle il n'a pas de contrôle. C'est évidemment lui-même qui fait cette histoire, mais pas librement.
Ça vous convient, Philippe Solers ?
Impeccable. Il y a le grand style de Debord, avec sa voix, avec cette touche de mélancolie qu'il y a aussi dans ses films, dans Engine Room. Là, il a mis longtemps à dire « je », hein, à se débarrasser de tout programme d'ensemble, etc. Il y a un moment où il commence à dire « je », ça devient bouleversant. Et puis après, il y a ce suicide, évidemment, qu'il a saisi, parce qu'il souffrait trop. Voilà, il est là dans Trésor d'amour, parce que la seule photo en couleur qui existe de lui, c'est Alice, sa femme, qui me l'a donné, prêté, pour un film que j'ai fait sur lui, qui s'appelle Une étrange guerre. Et j'ai la plus grande admiration pour Debord, mais là, il se trouve qu'il est photographié en couleur sur le restaurant où les amoureux vont.
Oui, où Mina et le narrateur vont déjeuner.
Qui s'appelle la Lille d'Ombre, c'est Conrad, c'est l'Île d'Ombre, voilà, magnifique endroit que vous connaissez sûrement.
Tout à fait.
Et qui est en face de San Giorgio. Voilà. Et donc, Debord est photographié là, en couleur, c'est la seule photo en couleur qui existe. Il est en train de déjeuner, il n'a pas envie d'être photographié, il se tasse un peu sur la droite, il y a une bouteille de vin sur la table. C'est une photo très révélatrice. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'avant, il écrit une lettre à Pauvert, Jean-Jacques Pauvert, avec qui il est en transaction pour ses livres. Et il dit « Je suis à Venise, vous pouvez venir si vous voulez, mais ne le dites pas à Solers qu'il ne connaît pas. » Mais enfin, c'est extraordinaire. Il aurait dû se renseigner.
Vous étiez à deux pas de là.
À deux pas, oui, c'est ça.
Alors, Philippe Solers, on a réussi à parler de vos goûts, de vos amours, puisque vous avez écrit « La guerre du goût », donc le goût, c'est important. On a réussi à pas trop parler de vos dégoûts, mais il faut quand même en dire quelques mots. Qu'est-ce que vous a fait l'art contemporain ? Parce que, vous voyez, je vais vous dire la vérité, je vous trouve original, lucide sur à peu près tout. Mais en revanche, je me dis, bon, Solers dit du mal de l'art contemporain, en plus en général, comme si c'était un tout, l'art contemporain, ce qui est contestable, vous l'admettrez. Et alors là, vous allez vous retrouver d'accord avec Luc Ferry, qui sais-je encore,
enfin,
des gens très étranges quand même, des réactionnaires qui n'ont rien à voir avec vous.
Sûrement pas d'accord avec les philosophes, philosophes, voilà. Que vous voulez dire, parce qu'ils sont incompétents.
Alors, là, cette détestation de l'art contemporain. Vous qui défendez Picasso quand Houellebecq l'attaque. Enfin...
Ben oui, mais Picasso n'est pas un peintre contemporain.
C'est un peintre moderne.
C'est là.
Alors, allez-y.
Il faut reprendre toute la question, mais là, c'est une autre émission. On va bientôt faire...
Il reste 3 minutes, on peut essayer.
Oui. Vous allez avoir une exposition Manet, c'est la première depuis 1983. Tout à coup, ça va être une révélation. Tout le monde parle de Manet, précurseur, inventeur de l'art moderne. C'est faux.
Ah.
Pourquoi est-ce que ça a fait scandale ?
Je crois qu'on m'a appris ça, moi aussi.
Oui,
c'est faux.
Tout le monde répète ça. Et là, je suis absolument contraire à ça. Ce n'est pas de l'art moderne. C'est de l'art. Il n'y a pas d'art contemporain. Il y a de l'art ou il n'y a pas d'art. Il est fort possible, je ne demande qu'à les connaître, mais vous n'allez pas me dire que c'est Murakami ou des imposteurs industriels de ce genre.
Murakami, ouais. Non, mais par exemple, un vidéaste américain qui s'appelle Bill Viola, c'est pas nul.
Mais je copie. bien
voyez,
sûr.
Voyez qui c'est, non, voyez, vous le détestez et pas, par exemple.
Et mon ami Fargé, maintenant.
Voilà, ou un peintre catalan qui s'appelle Miquel Barcello, c'est pas nul.
J'ai pas dit que c'était nul. Alors, j'ai dit que c'était de l'art ou pas. Donc, l'invention de l'expression art moderne ou art contemporain me choque pour la vraie raison que quand il y a vraiment art, c'est tout simplement de l'art et que Lascaux, à ce moment-là, est aussi moderne que Picasso, d'ailleurs qui s'en rendait compte parfaitement.
Enfin, oui, qui aurait été tout à fait d'accord avec
que
ça.
Que Georges mais... Bataille, un des premiers, a fait deux livres sur l'art, un sur Lascaux, un autre sur Manet, et Manet a fait scandale, tout Paris s'est rassemblé pour cracher sur l'Olympia, le déjeuner sur l'herbe, tout simplement parce que ce type, à une époque où tout le monde avait mauvais goût, hein, la société de son temps est moderne. Lui, non. Qu'est-ce qu'il dit ? Titien, c'est moi. Velázquez, c'est moi. Et voilà, ça, c'est ça. Et le problème, c'est ça qui a fait scandale. C'est que, brusquement, le grand art était là. Et que tout le monde s'en moquait. Moi, je vous demande quels sont les artistes contemporains capables de produire un tel scandale. Il est probable que ça sera très, très difficile. Très difficile. Parce que là, ça juge une société. Exactement au moment où il faut, si l'art se produit. Ce qui veut dire que la société déteste l'art. Que la société déteste la littérature. Qu'elle déteste la poésie. Et qu'elle déteste la liberté. Et qu'elle déteste l'amour aussi.
Oui, c'est pas mal comme conclusion. Il y a l'art contemporain et il y a le roman américain dans Le goût des détestations. Et alors, ce qui vous exaspère, c'est non seulement le roman américain, si j'ai bien lu, mais alors le côté pamoison des critiques français devant le moindre roman américain.
Comme des colonisés qui font leur travail de colonisés. C'est-à-dire, il y a un grand écrivain américain qui est un ami d'ailleurs.
Vous êtes ami avec Philippe Roth. Mais
oui.
Bon,
lui,
ben voilà, c'est l'idole de tout Paris, c'est votre copain.
Lui, ça va, mais attendez.
Ah bon, lui, ça va. Ça, bon, d'accord.
Non, mais attendez, ça a été très long. Roth a été éreinté en France pendant très longtemps. J'étais à la télévision pour défendre Contre-vie. Il était à 6000 exemplaires. Il doit beaucoup à la France. Et après, c'est monté. Il est âgé maintenant. Bon, mais si vous prenez par exemple la nouvelle de Dodd de Lillo que vous aviez dans Libération, vous verrez à quel point les Américains sont malades et comment c'est la bouillie dans leur tête avec Guantanamo, le 11 septembre, l'argent partout, etc. C'est sinistre. Non.
J'aime bien, c'est la bouillie dans leur tête.
Complètement. Et donc, là, vous rouvrez Stendhal, et ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.
Trésor d'amour, Philippe Soler, ce nouveau roman donc, qui paraît aujourd'hui même chez Gallimard. On va parler d'Alfred Hitchcock pendant une heure, de 17 à 18 heures. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, mais alors je vous reproche une autre chose, c'est que vous détestez le cinéma, et le seul cinéaste qui trouve grâce à vos yeux, c'est Hitchcock.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Mais c'est le plus grand, c'est le seul qui ait su manœuvrer des femmes comme actrices. Il n'y a rien de plus beau, c'est comme Picasso ou Manet. Il a prouvé sa supériorité. Prenez les personnages féminins de Hitchcock. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Voilà quelqu'un qui s'y connaissait en peinture aussi. Voilà. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Kim Novak, Maris.
Kim Novak, Janet Leigh, Ingrid Bergman. Voilà. Oui, il y avait du monde.
Et oui, il savait faire ça.